Sud Radio, c'est ça la France. Midi, midi 30, Nathalie Schrein-Guirma.
Bonjour à tous, bienvenue sur Sud Radio dans C'est ça la France. Quel bonheur de vous retrouver chaque dimanche ou mettre en avant le savoir-faire français ou faire découvrir des nouveaux entrepreneurs, des nouvelles entreprises. Et bien ce matin, c'est un programme dédié aux familles. Vous allez faire la connaissance d'une jeune entrepreneuse talentueuse qui a souhaité remettre au goût du jour les planches pédagogiques artistiques pour enfants et adultes. Une belle aventure made in France qui met en avant le talent d'artistes et d'artisans. Mais ça, c'est tout à l'heure. Avez-vous enfin trouvé votre mode de garde pour cette nouvelle rentrée? Sinon, le leader de la garde d'enfants en langue étrangère est avec nous. Bienvenue dans notre spéciale rentrée 100% made in France.
Sud Radio, c'est ça la France. Midi, midi 30, Nathalie Schrein-Guirma.
Et on va commencer avec une agence française, Speaking Agency, qui a été créée en 2009 par deux hommes. Et avec nous, l'un des fondateurs, Antoine Gentil. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors vous êtes devenu leader de la garde d'enfants en France.
Garde d'enfants en langue étrangère.
Langue étrangère, pardon, il faut le préciser ça. Garde d'enfants en langue étrangère. Donc vous avez créé donc avec votre collègue cette agence en 2009, créée par deux hommes. C'est assez marrant ça, Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est venue cette idée de penser aussitôt à mettre en avant cette garderie en langue étrangère?
Alors l'idée, elle est vraiment venue de notre vécu, parce que moi j'ai habité aux États-Unis, à Dallas dans le Texas pour être précis, avec mes parents et mes trois petites sœurs. Et en fait on est vraiment parti du constat que le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est en immersion dans le pays et dès le plus jeune âge. Et on a eu il y a 10 ans cette idée toute simple, pourquoi ne pas proposer de la garde d'enfants, donc à domicile, en langue étrangère.
Vous n'aviez pas d'enfants à l'époque?
J'avais pas d'enfants à l'époque. Ouais.
Donc on est au-delà de la garde traditionnelle. Pour vous c'était important qu'il y ait la dimension... Alors quand on dit langue étrangère, c'est anglais ou d'autres langues? Pas forcément que anglais.
C'est essentiellement l'anglais. Dans l'ordre, c'est anglais, espagnol, puis allemand.
Et alors vous faites ce qu'on appelle la garde active. Qu'est-ce que c'est que la garde active?
Alors nous vraiment, en fait, en 10 ans, on a déployé notre offre. Et aujourd'hui, globalement, Speaking Agency propose un certain nombre de services à domicile, au service de l'éveil de l'enfant. Donc notre service historique, c'est la garde d'enfants en langue étrangère. Et donc concrètement, on répond à des besoins de garde d'enfants en sortie d'école ou sortie de crèche. Deuxième service qu'on a créé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'est la garde active. Donc là, c'est de la garde d'enfants en français avec une approche basée sur les pédagogies actives, essentiellement Montessori.
D'accord, donc c'est-à-dire toutes ces pédagogies qui sont là pour éveiller l'enfant, pour à travers différentes activités. Donc tout ça se fait au domicile des parents.
Exactement. La plupart des prestations démarrent à la sortie de l'école ou à la sortie de la crèche. Après, nous, en fait, vraiment, ce qui s'est passé, c'est que depuis 10 ans, on a développé vraiment notre expertise. Et l'expertise première d'une agence de garde d'enfants, c'est le recrutement. Donc, on a développé tout un ensemble de process. Désormais, chaque année, on a plus de 40 000 candidatures reçues sur notre site internet.
C'est impressionnant.
On parle à peu près 20 000 personnes par téléphone. On fait passer 4 000 entretiens et on embauche 2 000 babysitters chaque année. Donc on est vraiment, notre cœur de métier, c'est le recrutement. Et après, donc, en partant de la garde d'enfants langue étrangère, on a échangé avec un certain nombre de parents. On avait, il y a 2 ans, un peu plus de 1000 familles clientes. Et on a découvert, on a creusé ce besoin et découvert qu'il y avait un certain nombre de parents qui n'étaient pas forcément intéressés par la langue étrangère. Et ce qu'ils voulaient avant tout, c'est avoir une personne qui puisse stimuler et développer l'autonomie de leurs enfants. Donc on a créé Garde Active.
Ça a été compliqué de recruter toutes ces babysitters avec ces compétences qui sont quand même très précises. Il faut avoir des notions, effectivement, des méthodes Montessori ou bien la langue étrangère. Donc, ce n'est pas juste une babysitter classique.
C'est, comme je disais, c'est vraiment le cœur de métier et c'est la première problématique et c'est la première valeur ajoutée qu'on a et raison pour laquelle les parents s'adressent à nous. Aujourd'hui, à l'agence, on est une quarantaine. Il y a une vingtaine de personnes qui sont uniquement dédiées au recrutement et dont les chiffres importants que je donnais en termes de process de recrutement qu'on arrive à traiter.
Quel est le profil des parents qui font appel à vous? Vous faites des études, vous avez une petite idée?
C'est très variable, c'est une bonne question. On intervient dans 11 villes en France aujourd'hui. Globalement, évidemment, c'est des parents de jeunes enfants, donc entre 3 et 11 ans. L'a priori qu'on peut avoir, c'est que c'est plutôt des familles aisées, voire très aisées. Pas seulement, puisque avec et les aides de la CAF et la défiscalisation, le coût moyen revient après les aides à environ 8 euros de l'heure. Donc, difficile de répondre à votre question, profil très, très varié.
C'est vrai qu'en termes de coût, on est assez proche d'une garde classique finalement.
Le coût brut que débourse le parent est, démarre oui, à environ 23-24 euros de l'heure en moyenne. Ensuite, il y a les aides de la CAF s'il y a un enfant qui a moins de 6 ans et la défiscalisation. Donc, je disais, ça revient à peu près 8 euros de l'heure en fin d'année.
Il y a une vraie demande encore aujourd'hui. Vous avez l'impression que c'est une demande plutôt croissante d'avoir des gardes avec une plus-value, en fait, pas juste une simple garde d'enfant.
La demande est très importante, oui. Comment dire, naturellement, ce qu'on fait, ça plaît. Et je dis ça avec aucune fierté mal placée. Disons, ce qu'on fait naturellement, ça plaît. Et c'est pour ça que très vite, le premier enjeu qu'on a est d'assurer le recrutement pour voir le nombre de clients croître et que la qualité reste la même. Ouais,
ça, c'est le primordial. On en revient à ce recrutement qui est très important pour vous parce que c'est vrai que tout est basé sur ça, en fait. D'ailleurs, il y a un système de... Alors, je n'ai pas de notation, mais est-ce que les parents peuvent faire un retour sur les babysitters qu'ils ont eu à domicile? Est-ce que vous essayez justement de régulièrement aller à leur rencontre, peut-être par des questionnaires, ou pour essayer de vérifier le niveau de satisfaction des parents?
Bien sûr. Alors, il y a deux choses. C'est pas comme, disons, un peu un chauffeur Uber. Voilà. Si on n'est pas satisfait de son babysitter, de toute façon... on ne va pas continuer avec et on va le changer. Donc oui, on a un système de notation, mais qui a moins d'importance que quand c'est, entre guillemets, des prestations one-shot. Et après, l'autre chose, c'est le cœur de la plupart, je pense, des entreprises de croissance. Nous, ça fait 4 ans maintenant qu'on investit dans notre système d'information. Et c'est en ayant en fait, cette force et ces outils d'entreprise logistico-RH qu'on arrive à répondre à la demande de manière qualitative et qu'on arrive à traiter, comme je disais, 40 000 candidatures pour arriver à 2 000 salariés. Et ce, dans un temps finalement assez réduit, puisque nous, les périodes les plus importantes, c'est en ce moment, c'est la rentrée scolaire.
Ah bah oui, c'est là, l'organisation familiale, ouais. On le disait. Alors concrètement, comment ça se passe? On va sur le site de Speaking Agency, sur Internet, on s'inscrit, on crée un profil, on appelle. Comment on peut justement... entrer en contact avec cette agence et se faire référencer auprès d'eux.
Exactement. On va sur le site speakingagency.com, on fait ce qu'on appelle une demande de devis, une demande de garde, et ensuite on rappelle, on qualifie bien le besoin, notamment on pose un ensemble de questions par rapport aux attentes qu'on a par rapport à le babysitter. On pose des questions aussi par rapport à la personnalité ou aux traits de caractère des enfants, puisqu'on essaye vraiment d'avoir un matching bien sûr basé sur des compétences et d'avoir de l'expérience en garde d'enfants, mais aussi d'essayer d'avoir une sorte de matching en affinité avec les valeurs de la famille et les personnalités de l'enfant.
Aujourd'hui, vous gardez combien d'enfants par semaine en moyenne?
Aujourd'hui, on prend en charge un peu plus de 3500 enfants chaque semaine.
Donc 3500 enfants par semaine, implantés dans 11 villes de France. Justement, à part Paris, quelles sont ces villes de France? Et j'imagine les plus importantes
Globalement, c'est toutes les plus grandes villes. Lyon arrive en deuxième, et ensuite toutes les autres villes, Lille, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Marseille.
Et donc vous avez vraiment fait un recrutement sur la France entière.
Exactement.
Non, c'est impressionnant, parce que souvent, quand on a des idées comme ça, Montessori, l'éveil, on va dire, pédagogie alternative, c'est souvent concentré à Paris ou en Ile-de-France. Mais là, vraiment, avec cette agence, on a vraiment eu cette volonté d'essayer de faire une sorte de maillage assez complet sur l'ensemble de la France.
C'est à Paris que ça a démarré, bien sûr, sinon on a créé à Paris. Mais très vite, par exemple, dès la deuxième année, on a créé à Lyon, et dès la troisième année, on a créé à Lille. Et on est vraiment allé en région. Et c'est amusant parce que d'ailleurs, le retour souvent des familles à Lyon, à Lille, était de dire... Souvent, on n'a pas ce que vous avez à Paris, un peu en regret. On peut parler, par exemple, d'écoles bilingues. Il y en a énormément à Paris, il y en a quand même beaucoup moins en région. Et donc, très vite, on a eu effectivement ce choix stratégique d'aller développer dans les autres villes.
Et vous avez créé aussi des partenariats de renom avec la mairie de Paris. J'ai vu avec aussi des éditeurs jeunesse. Alors, c'est-à-dire, c'est quel type de partenariat vous créez avec la mairie ou encore ces éditeurs, ces livres d'édition consacrés à la jeunesse?
Alors, nous, vraiment très tôt, on a démarré avec mon associé, on avait 22 et 23 ans. Donc, on a vraiment fait ce choix dès le début d'être très accompagné, très entouré. Donc, par exemple, du côté pédagogique, très vite, on a travaillé avec une psycholinguiste qui est maître de conférence à Paris 10 et affiliée au CNRS. Et on a travaillé sur ces questions pédagogiques de bilinguisme enfantin. Après, si je prends par exemple la mairie de Paris, Ça, c'était en troisième année, on a répondu à un appel d'offres de la mairie de Paris dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Vous savez, deux fois par semaine, les écoles finissent à 15h au lieu de 16h30 et il y a des associations ou des entreprises qui prennent le relais. Et donc nous, on intervient aujourd'hui à Paris dans une trentaine d'écoles où on propose des ateliers, d'ailleurs en espagnol et en allemand.
Ouais. Donc c'est comme ça, donc CNRS, mairie de Paris, édition, donc c'est vraiment cette volonté en fait d'être entouré de spécialistes pour être complètement légitime dans ce domaine-là.
Et exactement, et puis aussi dans une volonté de se concentrer, encore une fois, sur notre cœur de métier. Nous, notre cœur de métier, c'est d'un côté, bien sûr, gérer la relation avec la famille, le côté commercial, et d'un autre côté, j'en ai déjà parlé, mais vraiment le cœur de métier, recrutement. Et finalement, ces aspects, par exemple, pédagogiques, c'est pas quelque chose qu'on cherche vraiment à internaliser chez nous.
Et le prochain axe de développement, alors, dans le futur?
On a parlé de la région. Aujourd'hui, c'est une part non significative de notre chiffre d'affaires par rapport au total. Donc ça, c'est un vrai axe de croissance. Dans les deux années à venir, on va vraiment aller accélérer en région.
Merci beaucoup Antoine Gentil. Je rappelle que vous êtes donc fondateur de l'entreprise de l'agence française Speaking Agency, leader de la garde d'enfants en langues étrangères, et on sait à quel point effectivement les parents ont de plus en plus envie d'avoir des enfants soit gardés effectivement avec une l'équivalent d'une fille au père en fait, quelqu'un qui maîtriserait une langue étrangère. On sait à quel point c'est important de sensibiliser un enfant avant l'âge de 7 ans, je crois on dit en général, parce que c'est là où il peut, c'est une véritable éponge, et c'est là où il apprend finalement ces langues étrangères comme un jeu en fait, sans vraiment s'en rendre compte. Ou bien ces gardes alternatives qui sont de plus en plus demandées, hein, les écoles Montessori. Encore un grand bravo, leader de la garde d'enfants en langues étrangères. Merci Antoine Gentil, et puis bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Au revoir. Allez, je vous propose de découvrir un nouveau portrait d'entrepreneuse talentueuse juste après ça.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans notre spéciale rentrée 100% Made in France. Comme je vous le disais en début d'émission, on va vous faire découvrir maintenant une jeune femme, une reconversion professionnelle, une femme qui a tout quitté pour une très très belle idée.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Isabelle Diacono.
Bonjour Nathalie.
Alors vous êtes la fondatrice des Jolies Planches. C'est vraiment une très jolie idée, c'est poétique, c'est pour aider justement nos enfants à s'organiser. On peut décorer les murs de nos enfants avec, ce sont des planches pédagogique.
Oui, pédagogique et décorative. Ah, c'est vraiment très important d'associer les deux. Et je suis partie de plusieurs observations. Déjà, les savoirs n'étaient plus sur les murs. Le tout digital a tout remplacé. Et je trouvais ça un peu dommage.
Donc, c'est marrant parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont une réaction comme ça, ce tout numérique.
Oui.
On a presque envie de retrouver des savoir-faire ancestraux.
Oui, tout à fait. Et ce n'est pas une question de réactionnaire presque par rapport au progrès. C'est génial l'accès à l'information par le digital. On a tout immédiatement. Mais c'est plutôt une façon de remettre, de compléter le cerveau. Il a besoin d'avoir l'info immédiatement, l'accès au savoir immédiat, mais il a aussi besoin de retenir à long terme. Et fort des constats des apprentissages en neurosciences, c'est justement ce qui est important, c'est de pouvoir remettre les savoirs sur les murs et de permettre à la mémoire de fonctionner à long terme et de retenir. Ce que le digital ne permet pas, parce qu'on zappe, on est submergé d'informations. Et donc, c'est un complément.
Là, on fige aussi.
Exactement.
Voilà, on s'arrête.
Exactement.
On prend le temps. Sont des planches, alors, je le disais, pédagogiques. Hein, vous faites des abécédaires, des planisphères, des planches qui peuvent rappeler l'histoire de France.
Voilà, les tables de multiplication. Et j'ai développé aussi une gamme pour les grands, parce que j'ai beaucoup de demandes de mes clients qui me disent « Bon, les enfants, c'est génial, mais et nous, on a... » Donc, j'ai commencé par développer une carte des vins, par exemple, qui plaît beaucoup. Et puis là, j'ai beaucoup de projets pour la saison de fin d'année, justement.
Parce que, alors, qu'on l'explique bien à nos auditeurs, les planches pédagogiques, vous faites appel à des artisans, vous faites appel à des artistes. Donc, c'est un gros travail, gros travail de mise en place. C'est un gros travail en termes artistiques, mais aussi en termes de contenu. Et l'approche pédagogique est importante. Il faut vulgariser ce que l'on va dessiner.
Voilà, il faut vulgariser et structurer l'information. C'est très important pour que, justement, on puisse retenir l'essentiel. Si je reprends l'exemple de l'histoire de France... de reprendre l'histoire de France dans sa chronologie avec les, les périodes très bien dessinées et illustrées avec des personnages qui attirent l'attention, des petits et des grands d'ailleurs, ça aide le cerveau à bien resituer une période au milieu d'un ensemble. Et du coup, on apprend mieux.
Et pour imprimer justement ces planches,
oui.
Quels sont les artisans auxquels vous faites appel ?
Alors, je fais appel à un imprimeur d'art.
C'est ça.
Parce que j'avais vraiment une conviction forte. Je voulais un produit de qualité durable. Et les posters en papier, ça fadisse avec la lumière, ça se déchire. Bref, ça ne tient pas très longtemps. Et là, j'avais envie d'un produit durable qui se transmette. Aux frères et aux sœurs, aux cousins.
Une œuvre d'art, une petite œuvre d'art.
Voilà, une petite œuvre d'art et avec une jolie toile. Et donc, j'ai trouvé assez rapidement cet imprimeur qui m'a fait confiance, parce que ce n'est pas évident de démarrer avec des petites quantités et de pouvoir avoir la confiance d'un fournisseur au départ. Et il m'a fait confiance et je suis toujours évidemment... en affaire avec lui et j'espère pour longtemps. Et on grandit ensemble. Il a aussi embauché 2 personnes pour arriver
à répondre aux commandes,
au volume, parce qu'en 2 ans, on a beaucoup grandi. Et lui et moi, donc c'est bien, on partage l'aventure ensemble.
Merci beaucoup Isabelle Diacono. Je rappelle que vous êtes la fondatrice des jolies planches, ces planches pédagogiques réalisées par des artisans, par des artistes, des planches qui se veulent intemporelles. C'est un très joli cadeau à faire. En plus, ça aide les parents comme les enfants à s'organiser.
Parfait. Merci beaucoup, Nathalie.
Merci beaucoup et longue vie à cette belle entreprise.
Merci.
Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter, qui part chaque semaine à la rencontre de l'excellence à la française.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors aujourd'hui, je crois que vous êtes allé à la rencontre d'une belle institution.
Ouais. Parce que quand on parle d'excellence à la française et de savoir-faire, il y a une institution qui symbolise parfaitement tout ça. Eh bien, c'est le Mobilier National.
Ah, ça, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, on peut rappeler que le Mobilier National est chargé de meubler les hauts lieux de la République, comme le Palais de l'Élysée, les différents ministères ou encore les ambassades.
Exactement. Mais le Mobilier National, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ce garde-meuble de prestige créé sous Louis XIV. C'est aussi des ateliers de restauration, des manufactures ultra réputées comme les Gobelins ou la manufacture de Beauvais. Et vous ne le savez peut-être pas, c'est également une institution qui a pour mission de soutenir la création artistique et même le design contemporain. Et bien, c'est ce que j'ai appris lors de ma visite au dernier salon Révélation à Paris, où j'ai pu discuter avec Lauriane, qui est chargée de mission dans cette belle maison.
Alors, le rôle du Mobilier National, il est de soutenir la création. On a des ateliers essentiellement de création, donc manufacture des Gobelins, de Beauvais, de la savonnerie. On a les dentelières de Puy-en-Velay et Alençon. Et aussi l'atelier de recherche et création, qui est l'un de nos derniers ateliers, qui a été créé sous André Malraux, donc en 1964, avec la volonté de placer la recherche design dans la création française. Et donc un petit peu de concurrencer en fait ce qui se passait en Italie. Et on a aussi d'autres missions à côté qui sont aussi connues, qui sont les missions de restauration et d'ameublement, de diffusion et de transmission de savoir-faire qui sont d'une très haute technicité.
Alors ces objets, ces meubles, ces œuvres d'art, elles sont exposées où en temps normal ?
Alors, on peut les voir sur des expositions un petit peu partout dans le monde, aussi bien là actuellement à Fontainebleau sur le sujet par exemple de Napoléon, aussi bien à Tokyo pour des sujets art déco avec un paravent que nous avons dans nos collections. C'est aussi dans des châteaux puisqu'on participe à des remeublements de châteaux. Et puis on a aussi une dimension qui est un petit peu plus stratégique, qui est de mettre en dépôt dans des lieux comme des ambassades, des ministères ou l'Élysée, puisque ce sont des lieux de visibilité, des lieux où on montre ce qu'est la création en France pour pouvoir justement convaincre à l'extérieur, à l'international.
Alors c'est bien parce que Lauriane, elle a cité que des belles institutions françaises. La manufacture des Gobelins, la manufacture de la savonnerie de Paris, les ateliers nationaux de dentelle du Puy-en-Velay, d'Alençon. Enfin, voilà, c'est vraiment le summum du Made in France.
Exactement, bah sans oublier les ateliers de recherche et de création qu'elle évoque.
Ouais. Alors justement, vous avez pu voir certaines de ses œuvres contemporaines ?
Bah oui, le salon Révélation, qui est le rendez-vous des métiers d'art, bah il y avait justement quelques pépites de ce Mobilier National. Par exemple, une tapisserie abstraite de Vasarely, la fameuse méridienne du sculpteur César. Il y avait aussi des œuvres d'artistes d'aujourd'hui. Mais je vous laisse écouter, Lauriane.
Alors l'idée, c'était de montrer un petit peu nos pépites. Vasarely, ça parle à tout le monde. C'est en exposition à Pompidou. Mmh. La méridienne César, c'est pareil. C'est quelque chose qui est incontournable. Et c'était de faire dialoguer ces œuvres qui sont connues du grand public avec nos dernières œuvres sorties des métiers et des ateliers, comme l'ensemble là, décoratif de Christian Gion, comme une tapisserie de Claude Ruteau, comme une autre tapisserie de Tania Moreau. L'idée, c'était de montrer qu'on est dans la pointe de la création avec des artistes qui sont moins connus du grand public, mais qui demain seront les artistes les plus connus de France.
D'accord. Donc vous défendez haut, vous portez haut les couleurs du Made in France.
Exactement. C'est vraiment le principe de l'institution du mobilier national, qui est en fait l'héritage de ce qui a été créé sous Louis XIV, la manufacture royale des meubles de la couronne, où on avait un enjeu qui est un enjeu politique, qui est aussi un enjeu économique, qui est devenu aujourd'hui un enjeu social et culturel, et que nous défendons depuis plus de 4 siècles.
Et une manière de transmettre.
Oui, parce qu'on a derrière des métiers d'art qui sont absolument incroyables, qui sont uniques au monde, avec la manufacture des gobelins, création de tapisserie, manufacture de savonnerie, création de tapis, ce sont des choses qu'on ne peut pas voir dans d'autres pays, dans d'autres lieux. Donc on a cette responsabilité aussi de conserver un patrimoine immatériel qui est en fait la belle symbolique de nos savoir-faire français.
Bah, nous aussi, on a envie de découvrir toutes ces belles pépites, Thibault. Alors justement, pour nos auditeurs de Sud Radio, est-ce que c'est possible? Comment faire pour visiter toutes ces œuvres?
Ouais, pas besoin d'être le locataire de l'Élysée ou d'une ambassade ou d'un ministère. On peut visiter les réserves qui sont habituellement fermées au public. Alors ça se passe au siège du Mobilier National, à la Manufacture des Gobelins. Bah, il faut réserver, ça se passe sur Internet, cultival.fr. Et on découvrira notamment les bureaux des anciens présidents de la République. Ça vaut vraiment le coup. Allez-y.
Ah bah ça donne vraiment envie d'y aller. Et c'est bien, voilà, on peut y aller. C'est le plus important. Nos auditeurs de Sud Radio pourront, s'ils le souhaitent, visiter ces belles institutions. Merci beaucoup, Thibault. On se retrouve même jour, même heure, la semaine prochaine. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite un bon dimanche. Et d'ici là, portez-vous bien.